Nzamba.
Nzambira samirana.
Le journal avec Alexandre Niyungeko.
Vous êtes bien sûr la radio Nzamba. Agathe Kakawe, bienvenue mesdames, messieurs, chers auditrices, auditeurs de la radio Nzamba. Agathe Kakawe, c'est le moment du journal en français, dont voici d'abord les principales articulations. Six corps des militaires burundais tués dans la dernière attaque de la position militaire de Serbaraf en Somalie ont été retrouvés hier. C'était lors d'une opération de récupération de la position. Deuxième jour d'incarcération du docteur Christophe Sahabo à la prison centrale d'Omimba. Maître Gustave Niyonzima dénonce une violation des règles de procédure dans son emprisonnement. Il parle d'un dossier plus politique que judiciaire. Grogne au sein du personnel de l'Agence burundaise de l'électrification rurale. Ce personnel dénonce notamment l'irrégularité dans l'attribution des marchés. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bienvenue, bonsoir, bonjour, suivant la position de votre écoute.
Suivez les émissions de la radio Nzamba en direct sur le www.nzamba.org.
Six corps de militaires burundais tués dans l'attaque de la position militaire de Serbaraf en Somalie il y a plus de deux semaines ont été retrouvés hier. Ces militaires burundais faisaient partie des forces de transition de l'Union africaine en Somalie à Timis, l'ex-AMISOM. Ces corps ont été retrouvés ce mardi dans une opération de reconquête de Serbaraf. Nos sources nous disent que les recherches continuent pour retrouver d'autres corps. Plus de détails avec Georges Nimeya.
Les informations que nous détenons des sources de la radio Nzamba Gatte Kakawe, parmi les militaires qui étaient dans l'opération de reconquête de Serbaraf, indiquent qu'ils étaient sous le commandement du lieutenant-colonel Karamiriza, commandant du 64e bataillon à Tmis. Les djihadistes Al-Shabaab, avant un petit contact avec les éléments burundais, se sont vite repliés. Quand les militaires burundais ont accédé à l'ancien poste du commandement du 61e bataillon à Tmis Serbaraf, ils y ont trouvé six corps sans vie, des militaires en décomposition. Mais, curieusement, ces corps étaient attachés à des engins explosifs que les Al-Shabaab avaient tendus comme piège à ces militaires en opération. Pour récupérer ces corps, il a fallu exposer ces engins. Parmi les six corps, il y avait celui du feu lieutenant-colonel Ndayiragije, surnommé Kajeke, qui commandait le 61e bataillon à Tmis. Les six corps ont été récupérés et conduits à Mogadiscio pour préparer le rapatriement vers Bujumbura. Ces six corps totalisent 7 militaires déjà identifiés comme morts dans l'attaque du 3 mai dernier. L'armée burundaise a sorti un communiqué quelques jours après l'attaque indiquant qu'elle déplore la mort de 10 militaires seulement, plus de 20 blessés et 5 portés disparus.
Merci Georges Nimeya. Les membres de l'opposition continuent d'être tués, enlevés et emprisonnés arbitrairement au Burundi. Cela transparaît dans un rapport sorti ce mercredi par l'Organisation internationale de défense des droits de l'homme, Human Rights Watch. Ce rapport montre que ces abus ont été commis par certains agents de la police, des agents du service national de renseignement et des jeunes Imbonerakure. Des détails avec Benny Axelakan.
Dans ce rapport, Human Rights Watch indique avoir interrogé entre octobre 2021 et avril 2022 plus de 30 personnes, dont des victimes et des témoins de violations, des membres de familles, des représentants des partis d'opposition et des défenseurs des droits humains burundais. Selon toujours Human Rights Watch, des enquêtes menées dans les provinces de Cibitoke et de Kayanza ont démontré que les autorités ont ciblé des opposants présumés du parti CNDD-FDD. Human Rights Watch indique aussi avoir analysé et authentifié des enregistrements vidéo qui montrent plusieurs officiers de l'armée et de la police reconnaissant des meurtres. Human Rights Watch, dans son rapport, a constaté que des forces de sécurité et les jeunes du parti au pouvoir réagissent par de nouvelles exactions aux attaques meurtrières contre des civils des agents de l'État, souvent perpétrées par des assaillants armés non identifiés. Human Rights Watch rappelle une série d'attaques qui ont eu lieu dans plusieurs provinces du pays en 2020 et 2021. En septembre 2020, au moins 6 civils ont été tués et 3 ont été blessés lors d'une attaque dans la commune de Matongo, en province de Kayanza, attribuée à un groupe armé non identifié. Les autorités n'ont que rarement mené des enquêtes transparentes avec des conclusions rendues publiques sur ces attaques qui ont fait des dizaines de morts parmi les civils ces dernières années. Human Rights Watch indique que l'arrestation et l'emprisonnement de Tony Germain Hina, un défenseur des droits, constituent la dégradation des droits de l'homme au Burundi. Selon Human Rights Watch, la province de Cibitoke connaît des taux élevés d'atteinte aux droits humains d'après des groupes de défense des droits humains burundais. La situation sécuritaire s'y est dégradée après que des attaques menées par des groupes armés en 2021 ont été rapportées à Cibitoke et dans d'autres provinces le long de la frontière du Burundi avec la République démocratique du Congo et le Rwanda. Human Rights Watch termine son rapport en demandant au gouvernement du Burundi de condamner publiquement les atteintes aux droits humains commises par les forces de sécurité de l'État et les membres de la jeunesse du parti au pouvoir et ordonner la fin de ces pratiques, à mener des enquêtes crédibles et transparentes sur ces cas et engager des poursuites contre les responsables et à garantir la sécurité, la liberté d'expression, de réunion et d'association, ainsi que l'intégrité physique des opposants politiques et de leurs proches, des journalistes, des membres de la société civile et des défenseurs des droits humains.
Merci Benny Axela. Autre violation, celui du docteur Christophe Sahabo qui passe son deuxième jour à la prison centrale de Mimba. Après 45 jours au cachot du Service national de renseignement, le SNR, parmi les 5 infractions retenues contre cet ancien administrateur, directeur général de l'hôpital Kira Hospital, 2 seulement figurent dans le code pénal selon Maître Gustave Nyonzima, juriste et avocat. De son point de vue, le docteur Christophe Sahabo est détenu arbitrairement. On écoute.
Si on s'en tient au chef d'accusation à son égard, donc faux usage de fonds, perturbation de l'économie nationale, infraction en rapport avec la constitution de la société, infraction en rapport avec le fonctionnement de Kira Hospital, abus des biens sociaux, seules 2 parmi ces accusations sont prévues et punies par le code pénal. Donc c'est les infractions d'abus des biens sociaux et de faux et usage de faux. Et juridiquement parlant, en droit pénal, on ne punit que lorsqu'il y a quelque chose qui est prévu et puni par la loi. Or, dans le cas d'espèce, tous ces autres chefs d'accusation ne sont pas du tout reconnus par le code pénal. Ce qui fait qu'il y a la nullité au niveau des accusations.
Maître Gustave Nyonzima explique également que ce dossier en justice est couvert de plusieurs irrégularités. Il relève les violations des règles de procédure avant de parler d'un dossier plutôt politique que judiciaire. On l'écoute encore une fois.
Christophe Sahabo a été arrêté le 30 mars 2022. Il n'y a jamais eu au préalable un mandat ou une convocation pour lui signifier les accusations. Et ceci est une transgression des articles 14-230 du Code de procédure pénale. Et il y a aussi une autre absurdité juridique et judiciaire au niveau même de l'interrogatoire. Les officiers de police judiciaire du Service national de renseignement n'ont pas indiqué à l'accusé qu'il a le droit de garder le silence à l'absence de l'avocat de son choix et qu'il a le droit d'avoir un avocat commis d'office s'il n'a pas les moyens pécuniaires de payer celui de son choix. Ceci transgresse de fond en comble des articles 10 alinéa 5 et 138 du Code de procédure pénale. Et si l'on s'en tient même aux articles 111 et 112 du Code de procédure pénale, il devait y avoir la nullité. Qui plus est, il y a le principe cardinal de toute enquête et instruction qui est tiré de l'article 110 alinéa 2 du Code de procédure pénale qui exige qu'il y ait une infraction à charge et à décharge. Néanmoins, à l'égard du docteur Sahabo, il n'y a eu qu'une infraction à charge. Par ailleurs, la présomption d'innocence prévue par l'article 40 de la Constitution, 14 des pactes internationaux relatifs aux droits civils et politiques ont été biaisés. Et en droit pénal, on ne peut pas incarcérer quelqu'un pour des chefs d'accusation obscurs et imprécis. Les OPG du Service national de renseignement devaient respecter que la libération étant la règle et que la détention en est l'exception, comme c'est exigé par l'article 154 du Code de procédure pénale. Christophe Sahabo a été présenté devant l'officier du ministère public après plus de 45 jours en phase de la procédure de garde à vue, au lieu de 7 jours prévus par l'article 34 du Code de procédure pénale. C'est une violation flagrante, même l'officier du ministère public devait au départ vérifier ces irrégularités conformément à l'article 111 du Code de procédure pénale. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de déduire que le dossier est politique que judiciaire.
Inzamba. L'inquiétude plane au sein du personnel de l'agence burundaise pour l'électrification rurale, la BR. Ce personnel dénonce les cas d'irrégularité dans l'attribution des marchés et la mauvaise organisation du travail. Les trois directeurs des départements de cette agence ont pointé du doigt dans cette affaire. Cela se trouve dans une correspondance que ce personnel vient d'adresser au ministre de l'Énergie et des Mines. Ce personnel demande le limogeage de ces trois responsables. Le contenu de cette correspondance, signé Raoul Nguruzi.
Dans cette correspondance adressée au ministre des Travaux publics, de l'Énergie et des Mines, par le personnel de l'Agence burundaise pour l'électrification rurale, il lui demande de tout faire pour sauver l'agence qui risque de tomber en faillite suite à la mauvaise gestion. Les premiers responsables cités par ce personnel sont les trois directeurs de l'agence qui attribuent des marchés en violation de la loi et procédures régissant les marchés publics. Selon cette correspondance, ces responsables s'arrogent le droit d'attribuer des marchés sans consulter la cellule de gestion des marchés publics et des fois à des montants exagérés. Ce personnel se base sur quelques exemples pour montrer que la situation est chaotique. C'est le cas notamment de la construction des lieux d'aisance dans les bureaux de ses directeurs où une seule toilette a été construite pour un montant de 10 millions de francs burundais. Ce n'est pas tout. Des irrégularités ont aussi caractérisé l'attribution du marché dans la construction d'un conduit d'eau sur le barrage hydroélectrique de Garusera en province de Muramvya. La même correspondance parle également de la construction d'un digesteur de biogaz au lycée de Makamba qui n'a jamais fonctionné alors qu'il a coûté beaucoup d'argent à l'État. Selon toujours cette correspondance, ces directeurs sont allés plus loin dans l'attribution du marché pour le renouvellement d'une petite pièce que le personnel compare à une morgue qui a coûté 29 millions de francs bouffe. Une somme jugée énorme par ce personnel car il n'y a pas eu d'achat des matériaux nouveaux pour la réfection de cette pièce. L'inquiétude du personnel de l'agence se base sur la modification des procès-verbaux lors de l'attribution des marchés et la profération des menaces pour que personne ne puisse sortir un mot allant dans le sens contraire de leur projet. L'exemple le plus parlant est celui de l'attribution d'un marché de plus d'un milliard de francs bou en commune Butihinda qui a été retiré à celui qui avait honnêtement gagné, ce qui pourra dans l'avenir causer d'énormes préjudices à l'État. Ce personnel conclut la correspondance en demandant l'intervention rapide du ministre des Travaux publics pour sauver l'agence avant qu'il ne soit trop tard. La rédaction de la radio Inzamba a appelé le ministre des Travaux publics, de l'Énergie et des Mines, Abraham Uwizeyimana, pour en savoir plus sur ce dossier, mais sans succès.
Merci Raoul. Il est interdit aux éleveurs des provinces de vendre ou de consommer la viande de vache pendant cette période de maladie contagieuse qui attaque les bovins. Lors de sa visite hier dans la province d'Ngozi, le directeur général du ministère de l'élevage et de l'agriculture, Serge Nkurunziza, a fait appel aux administrateurs communaux et aux vétérinaires de faire respecter les gestes barrières afin d'éviter la propagation de cette maladie.
Dari province Ngozi e Kirundo lise manifeste ini maradi kie karakterize se itupa le kulema disan o nivo dine osi aveke unitere termi kupa ale meme aprito kante degre Celsius so manifesta osi pa ini febrese generalize mezo osi keke fwa lolirine rujatri mvoya lodo sete maradi stadiri ke onse konsulite aveke le charige de la santé animale au sein de cette province, mais aussi au sein des communes, pour qu'ils s'emparent avec l'administration territoriale, où ils ont pu alors prendre des mesures de restriction du mouvement du bétail en attendant que la situation se renormalise. On a pu dépêcher l'équipe du laboratoire national vétérinaire de Bujumbura pour venir sur le terrain afin de prendre des échantillons pour des examens. Ils ont pu alors faire des analyses et ils ont trouvé dans quelques échantillons pris qu'une partie de la maladie était la brucellose. D'abord, il est interdit de consommer une viande issue d'un animal qui est malade. Que ce soit pour cette maladie qu'on n'a pas déjà identifiée, mais aussi que ce soit pour toutes les autres maladies. Vous pouvez consommer une viande d'un animal malade et être attrapé par le virus ou la bactérie qui est la causale de cette maladie, puisque tu ne sais pas que ce n'est pas une maladie zoonose ou pas. Autre chose, un animal qui est sous traitement, c'est-à-dire qu'il y a des médicaments qui ont été utilisés pour traiter cet animal, raison pour laquelle il y a quelques résidus de ces médicaments qui se trouvent dans la viande. Vous comprendrez alors que si une fois vous consommez cette viande, c'est une viande que nous disons qui n'est pas saine, raison pour laquelle alors il est interdit de consommer la viande d'un animal malade ou d'un animal mort subitement.
Et dernière nouvelle de ce journal, un groupe de réfugiés burundais en Tanzanie est en préparation pour être envoyé au Burundi pour s'enquérir de la situation. L'idée est de retourner dans les cas et de sensibiliser les réfugiés pour le rapatriement. Les réfugiés s'insurgent contre cette pratique qu'ils jugent inefficace et inopérante. Ils disent qu'il revient à chacun de voir comment, de voir le moment propice pour pouvoir rentrer. Le point avec Vanessa Muitek.
Les inquiétudes des réfugiés d'Onduta et Nyarugusu sont fondées sur l'hostilité des autorités tanzaniennes vis-à-vis des réfugiés burundais depuis 2015. Ces autorités ont cherché depuis longtemps à les rapatrier par force, mais en vain. Selon les réfugiés, l'envoi d'une équipe de réfugiés pour aller constater que la paix règne au Burundi est une autre stratégie adoptée par les autorités tanzaniennes en connivence avec le pouvoir de Gitega. Écoutez ce réfugié, il expose leurs inquiétudes.
Il y a une chose qui nous inquiète beaucoup. Le programme de nous rapatrier par force va être achevé. Ils viennent de choisir un groupe de gens qui vont se rendre au Burundi pour faire un constat de lieu de la sécurité. Ici en Douta, où se trouvent également ceux qui étaient au camp de Mtendeli, on a choisi 6. À Nyarugusu, on a choisi 5. Ils vont passer 2 semaines au Burundi, et puis ils vont retourner avec quelques autorités burundaises pour nous sensibiliser et nous prouver que la paix règne au Burundi. Cela permettra aux autorités tanzaniennes de nous rapatrier par force. Ces gens sont en train de travailler dans la clandestinité pour qu'au mois de juin prochain, on puisse nous chasser.
Les résultats de l'enquête n'engageront que l'équipe envoyée sur terrain, disent les réfugiés. Ils affirment que certains d'entre eux avaient été mentis que la paix règne au Burundi. Ils sont rentrés, mais quelque temps après, ils ont repris le chemin d'exil. Suivant un autre réfugié du même camp de Nduta.
Nous ne pourrons pas bien accueillir le message, car chacun sait ce qu'il a poussé à l'exil. On ne peut pas nous dire que 2 ou 3 personnes sont allées constater l'état de la sécurité et puis venir dire aux réfugiés que la paix règne. Nous ne pouvons pas accepter. La Tanzanie et l'OHCR ont fait le même jeu les années passées. Nous sommes rentrés et quelques temps après, nous sommes retournés en exil. Jusqu'à présent, nous sommes encore des réfugiés.
La situation est comme telle au moment où l'action des chrétiens pour l'abolition de la torture à Kat Burundi, dans une étude récemment faite, a bien précisé que les réfugiés Burundi qui sont en Tanzanie et en République démocratique du Congo n'ont cessé d'être maltraités. Nous n'avons pas pu joindre le représentant du camp des réfugiés de Douta pour qu'il confirme ou infirme les accusations des réfugiés.
Merci Vanessa, et c'est sur cette nouvelle des réfugiés que nous mettons fin à ce journal. Merci à vous toutes, tous, chères auditrices, auditeurs de la radio Inzamba Gateka Kawe pour votre fidélité. Je vous souhaite de passer une agréable journée ou soirée suivant la position de votre écoute. Au revoir et à la prochaine.